Donc bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. La semaine dernière, donc je poursuis mon parcours de l'évangile de Marc, et la semaine dernière, nous étions dans la première partie du procès de Jésus. C'était son procès religieux par le Sanhédrin, le conseil religieux juif. Et donc vient maintenant la deuxième partie de son deuxième procès, qui cette fois va être devant les autorités civiles. Donc je vous invite à prendre Marc, l'évangile de Marc, chapitre 15, à partir du verset 1, et je lirai jusqu'au verset 20. Marc, chapitre 15, le début donc jusqu'au verset 20, et je vais prier. Seigneur, merci encore de nous avoir laissé ton histoire qui est vraie dans les évangiles. Cette histoire qui est pour nous, c'est pas une simple histoire, Seigneur, elle est encore d'actualité, Seigneur, et nous te prions de nous aider à en tirer toutes les richesses, Seigneur, pour nos vies, et à considérer tout ce par quoi tu es passé, Seigneur, par amour pour nous, Seigneur, pour nous sauver. Rends-nous attentifs à ta parole, qu'elle agisse dans nos vies, au nom de Jésus. Et je me repose sur toi pour ce message. Amen.
Amen.
Je vais prier. Je vais lire. Donc, Marc 15, 1 à 20. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau : « Ne réponds-tu rien ? Vois tout ce dont ils t'accusent. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander ce qu'il avait coutume de faire pour eux. Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs soulevèrent la foule pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit : « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau : « Crucifie-le !» Pilate leur dit : « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le !» Pilate voulut satisfaire la foule et leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Les soldats amenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et appelèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Puis ils se mirent à le saluer : « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour eux, pour aujourd'hui, en ce qui concerne Marc 15. J'ai intitulé mon message « Le jugement sacrifié ». La semaine dernière, vous vous rappelez, le titre de mon message, c'était « La vérité ». La vérité avait été sacrifiée pour que nous devenions des témoins de la vérité, des témoins de Jésus. Ici, nous sommes dans la phase « jugement ». Nous sommes dans la partie jugement. Et la vérité qui résume ce texte, qui m'est apparue, c'est celle-ci. Le jugement est sacrifié, mais la justice demeure. Le jugement est sacrifié, mais la justice demeure. Et c'est ce que je vais développer en deux points cette fois. Premièrement, mon premier point, ce sera le jugement sacrifié ou la mauvaise substitution. Le jugement sacrifié ou la mauvaise substitution. Et deuxièmement, ça sera le triomphe de la justice ou la bonne substitution. Il est question de substitution, beaucoup de substitution dans ces passages. Voici donc le Sanhédrin, le conseil religieux juif, qui se réunit de nouveau le matin. Vous vous rappelez, la nuit précédente, il y avait eu un simulacre de procès où tout le Sanhédrin avait condamné Jésus à mort parce qu'il n'avait pas nié être le Fils de Dieu. Et donc le Sanhédrin se réunit de nouveau le matin, au cours d'une brève réunion qui, celle-ci, est légale, pour confirmer la réunion illégale qui avait eu lieu la nuit précédente. Celle de la nuit précédente, elle était inégale dans le règlement du Sanhédrin. l'œuvre de mort de Jésus devait s'accomplir rapidement. Pas seulement parce que les chefs religieux en avaient hâte d'en finir avec Jésus, mais aussi et surtout parce que Dieu restait au contrôle. Son plan était que Jésus soit sacrifié au moment où les agneaux étaient immolés à la fête de la Pâque. Dieu voulait que son fils soit sacrifié à la Pâque. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors tout va s'enchaîner très vite. Les chefs religieux emmènent Jésus chez le gouverneur romain, Pilate, à l'époque. Pilate, donc, il représente le pouvoir civil romain. Et c'est ce pouvoir qui était le seul habilité à mettre à mort ou non Jésus. Le Sanhédrin n'en avait pas le pouvoir. Voici donc, il lui lie les mains. Jésus avait-il besoin d'avoir les mains liées? Il lui lie les mains comme un malfaiteur, ses mains qui avaient fait tant de bien. Ses mains qui n'avaient fait que du bien. Ses mains qui avaient guéri des malades. Ses mains qui avaient nourri des foules. Il lui lie les mains. Mon premier point, eh bien, c'est que le jugement a été sacrifié lors d'une mauvaise substitution. Donc, après le procès religieux de Jésus la nuit qui a précédé, où il avait été accusé de blasphème, ne niant pas qu'il était le Fils de Dieu, vient donc le procès civil, cette fois devant Pilate. Et cette fois, Jésus est accusé de quoi ? Il est accusé de trahison envers le pouvoir romain. Il fallait bien trouver quelque chose. Jésus était irréprochable, il n'avait jamais péché, il est le Fils de Dieu. Pilate lui demande s'il est le roi des Juifs. C'est une question qui relève plus de politique que de religion. Jésus répond, tu le dis. Il ne nie pas. Comme il n'a pas nié être le Christ, le Messie, le Fils de Dieu devant le Sanhédrin, il ne nie pas être le roi des Juifs devant Pilate, devant le tribunal civil. Le terme Messie, qui veut dire Christ, hein, le terme Messie, Christ, ces termes-là ne signifient rien pour Pilate. Ce n'est pas un religieux, Pilate. Par contre, il comprend le terme roi des Juifs. Ça, c'est un terme plus politique. Si Jésus est le roi des Juifs, il y a un risque. Il y a un risque que le peuple juif se révolte contre l'autorité romaine en place, faisant de Jésus un sérieux concurrent pour César, pour le pouvoir en place. Mais chose étrange, c'est frappant, on peut en discuter mercredi, Pilate ne lui fait aucun reproche quand il ne nie pas être le roi des Juifs. Il lui dit simplement, tu le dis. Il l'est. Il est même plus que cela. Ce sur quoi, quand Jésus dit « tu le dis », quand il répond à Pilate, les chefs religieux surenchérissent et ils portent une avalanche d'accusations contre Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Comme lors de son procès religieux, là encore Jésus ne se défend pas. Jésus ne se défend pas, il garde le silence devant tant de fausses accusations. Et il y a de quoi étonner Pilate. Pilate était étonné, nous dit le texte. Le verbe « étonner » évoque même l'idée d'admiration. Il a admiré Jésus de ne pas se défendre devant tant de mensonges. Alors, on a déjà évoqué mercredi dernier pourquoi Jésus ne s'est pas défendu. Et ici, on a encore une explication, c'est effectivement le psaume 38, versets 14 et 15, qui nous éclaire sur le pourquoi du silence de Jésus. Psaume 38, 14 et 15, où on peut retrouver Jésus. Je vous le cite. « Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. » Jésus gardait le silence parce qu'il s'attendait à Dieu pour le défendre. Et pour cause, Jésus est Dieu. Le seul à même de le défendre, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui peut défendre Dieu. Il s'attend à Dieu. La délivrance viendra, pas à ce moment-là. Ce sera après sa mort, lorsqu'il ressuscitera. C'est aussi un exemple pour nous. Devant des fausses accusations, on l'a évoqué mercredi dernier, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour rétablir la vérité. Il y a aussi un temps pour se taire. En tout cas, ici, le silence est de mise et on peut s'inspirer de ce qu'a fait Jésus. Jésus s'attendait à Dieu pour le défendre. Nous pouvons aussi nous attendre à lui lorsque nous sommes la cible de fausses accusations. Le silence, c'est aussi une manifestation de la foi. Lorsque nous gardons le silence, nous nous attendons à Dieu pour nous défendre. C'est une marque de foi. Et Dieu répond à la foi. Psaume 39, verset 9. Là encore, on pourrait l'appliquer à Jésus et aussi à nous lorsque nous sommes dans des situations d'épreuves, d'accusations pas fondées, infondées. Psaume 39, verset 9. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Une raison de notre silence est de nous attendre à Dieu. C'est une marque de foi. Alors, lors de la fête de Pâques, il y avait une tradition. Le gouverneur romain en place avait coutume de relâcher un prisonnier juif lors de la fête de Pâques. Et il était d'usage de laisser le choix au peuple qui devait être libéré. Et le peuple donc vient demander une libération. Mais de qui ? Pilate, il a compris la situation. Il commence à réaliser que le soi-disant crime de Jésus, ce n'est pas son hostilité envers Rome. Il n'a rien à lui reprocher de ce côté-là. Mais le crime de Jésus, c'est la jalousie des chefs religieux envers Jésus. Jésus devenu trop populaire pour les chefs juifs, les chefs religieux de l'époque. Jésus aime les juifs. Hein. Dieu aime les juifs, il veut aussi les sauver. Là, on est effectivement dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est qui a amené Jésus à ce point ? En tout cas, là, il était question de chefs religieux juifs. Et Pilate l'avait compris. Alors, il a besoin d'une porte de sortie, Pilate, parce qu'il n'a pas envie de condamner un innocent. Il sait que Jésus est innocent. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il propose à la foule de libérer Jésus pour justement avoir une porte de sortie, pour éviter d'avoir à condamner Jésus. Mais les chefs religieux, là encore, ils aggravent leur cas. Ils vont pousser la foule à choisir non pas Jésus, mais Barabbas. Barabbas, c'est un insurgé politique et un criminel. Lui, il était contre l'occupant romain et avec violence. Et la foule, donc, choisit Barabbas. Et là, on voit toute l'attitude contradictoire des chefs religieux. Parce que d'un côté, ils voulaient que Pilate relâche Barabbas, qui est un criminel opposé à Rome. Et en même temps, il voulait faire accuser Jésus de trahison envers Rome. Complètement illogique. Parce qu'il voulait la perte de Jésus. Il n'était pas cohérent, c'était contradictoire. Et là encore, eh bien, les chefs religieux se sont accusés eux-mêmes. La vérité a de nouveau été sacrifiée à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, c'est tout le peuple qui réclame la libération du criminel Barabbas à la place du roi Jésus, du roi des Juifs. Pilate avait compris l'innocence de Jésus. Alors, c'était quand même le gouverneur. Il aurait pu user de son autorité pour empêcher son exécution. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait par lâcheté. Il voulait plaire à la foule. Il craignait une insurrection contre le pouvoir romain. Alors évidemment, comme il n'a pas usé de son autorité, eh bien ça explique tout ce qui a suivi. Et remarquez là, ici, comment il se défie, là, Pilate. Il a laissé la foule décider à sa place. Décider à sa place, une fois que la foule a décidé qui serait celui qui serait condamné, regardez combien il délègue son autorité à la foule. Il a laissé la foule décider à sa place quel sera le sort du coupable. Il demande à la foule, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? Alors que c'était à lui de décider. Et plus grave encore, non seulement Pilate laisse la foule décider, mais il va déléguer son pouvoir de juger à la foule. Il va laisser la foule juger. Et là, c'est une mauvaise substitution. Lui qui a l'autorité, il laisse la foule décider du sort de Jésus et il laisse la foule le soin de déclarer quel jugement pour Jésus. Il substitue son pouvoir à celui de la foule qui va demander quel est le jugement, non pas la flagellation, non pas la prison, non pas l'exil, mais la mort d'un innocent et une mort atroce. Crucifie-le! C'est incompréhensible. Cette même foule, Morel nous l'a rappelé tout à l'heure, elle avait acclamé Jésus par des hosanna lors de son entrée à Jérusalem. Cette même foule, elle crie « Crucifie-le !» Attention, attention au mouvement de foule, à ne pas se laisser entraîner. Pourquoi une telle versatilité dans cette foule? Alors oui, il y a des explications. Les chefs religieux ont excité la foule pour qu'ils choisissent Barabbas. Ils ont quand même été pour quelque chose dedans. Ils ont excité les chefs religieux ont excité la foule pour faire condamner celui qu'elle croyait être un imposteur. Au final, Jésus, ce n'était pas le Messie qu'ils attendaient pour eux. Ils ne voyaient pas le Messie comme ça. Imaginez la déception de la foule devant celui qui dit être le Messie et qui est tellement vulnérable. Qui est tellement vulnérable. Un état de complète vulnérabilité. Par contre, la foule voyait plus en Barabbas le Messie, un Messie politique qui viendrait les délivrer de l'occupant romain. Par la violence, ce dont il a déjà usé. Il a tué, c'est un criminel, hein, Barabbas, c'était un criminel. Alors que se passe-t-il? Eh bien, la foule préfère Barabbas à Jésus et la foule fait condamner celui qu'elle croyait être un imposteur. Crucifie-le! Et là, Pilate, ça ne va pas comme il voulait. Il aurait aimé ce... C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est ce qu'il... Il s'en lave les mains. Hein. C'est pas dit ici. Dans un autre évangile. Pilate, il aurait bien aimé que ça n'arrive pas jusqu'à là. Et donc, il demande à ce tribunal, qui est la foule, mais quel mal a-t-il fait? Et là, seule réponse, crucifie-le. Où est le jugement? Le jugement a été sacrifié. Pilate, les historiens le reconnaissent comme ayant été un chef dur et cruel. Et là, il s'exécute, il fait ce que la foule demande, il relâche Barabbas et il va même faire plus. Il fait battre Jésus de verge. Et les fouets romains, à l'époque, hein, les fouets romains, c'était pas des fouets, des martinets comme aujourd'hui. Hein. C'était des fouets avec des terminaisons qui étaient en métal et en os pour mieux déchirer la peau. Puis Jésus est livré pour être crucifié. Pilate, il a suivi la foule. Il a sacrifié le jugement pour plaire au plus grand nombre. Au lieu de quoi? Au lieu d'exercer la justice et du sein de son autorité. Il avait l'autorité pour arrêter ça. Résultat, eh bien, crescendo dans la haine et dans la violence. Et là, ça montre encore qu'il n'y a pas de neutralité. Si l'autorité religieuse ou civile instituée par Dieu ne fait pas son travail, cela ne peut qu'aboutir qu'au chaos, qu'à un déchaînement de violence libérant les pires pulsions chez l'homme. Vous vous rappelez, lors de son procès religieux, devant le tribunal, devant le Sanhédrin, autant le rejet du Messie par les chefs religieux la nuit précédente avait libéré toute la violence, même chez des gens religieux. Autant ici, l'indifférence et la lâcheté du chef romain va aussi libérer toute la violence chez ses soldats envers celui qui est le prince de la paix, envers Jésus. Parce que l'autorité n'a pas fait son travail. Alors là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les soldats brutaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler la cohorte. Ils vont appeler la cohorte, une cohorte, ça pouvait compter près de 600 hommes. Ils vont appeler toute la cohorte romaine pour assister à un spectacle. À un spectacle, ils vont se moquer de Jésus. Après le simulacre de procès de la part des religieux, la nuit précédente, voici maintenant le simulacre de couronnement dans un simulacre d'adoration de la part des non-religieux, des non-juifs. Là, il s'agit des soldats romains. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont tresser une couronne d'épines. Les épines, elles n'ont pas été sur la terre, elles n'étaient pas là au début. Si vous lisez le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, verset 18, nous dit que la terre avait produit des épines suite à la chute d'Adam et Ève. Les épines, il y a beaucoup de ronces hein, sur Figeac, hein. Les épines sont le résultat du péché de l'homme. La terre elle-même en a été affectée. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus, le roi des rois, il est couronné de ce qui représente le péché de l'homme, de ce qui représente, de ce qui avait, le péché qui avait produit, le péché qui est la cause du péché de l'homme. L'homme couronne son créateur avec une couronne d'épines, représentant son péché. Et puis on imagine 600 hommes, imaginez-vous 600 hommes, 600 hommes de la cohorte se prosterner devant Jésus, en se moquant de lui. Il frappe la tête de qui? La tête de celui qui est la tête du chef suprême de l'univers, celui qui est le créateur de l'univers. Jésus est le créateur, il est Dieu. Il frappe sa tête. Il crache sur lui, il se moque de lui. Ils font semblant de se soumettre à lui. Mais tous ceux qui font semblant de se soumettre à lui, eh bien, un jour, ils se soumettront vraiment à lui. Ils le feront un jour réellement. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 7. Et elle dit aussi, et ça s'accomplira, dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 14, verset 1, tout genou fléchira devant le Seigneur, lorsqu'il reviendra. Évidemment, elle agissait par ignorance. Les Romains n'avaient pas été instruits. N'empêche que, c'est dit, Jésus est venu, en tout cas, tout genou fléchira devant le Seigneur. Jésus est venu pour tous, les juifs et les non-juifs. Jésus a été victime de la pire injustice de la part des hommes. Alors, qui est responsable? On peut se poser la question, qui est responsable? Est-ce que ce sont les faux témoins qui ont accusé Jésus lors de la nuit précédente? Est-ce que ce sont les chefs religieux juifs? Est-ce que c'est l'apôtre Pierre qui n'a pas osé dire qu'il connaissait Jésus? Est-ce que c'est la foule qui a crié « crucifie-le » Est-ce que c'est Pilate qui a laissé faire? Est-ce que ce sont les soldats non-juifs qui se sont moqués de Jésus? Qui est responsable? Tous. Tous sont responsables. Et plus généralement, nous tous. Nous sommes tous responsables de ce qu'a subi Jésus, de ce qu'il a bien voulu subir. Mon deuxième point, malgré cela, nous allons voir que ça va être le... La justice va triompher. Nous allons voir ici la bonne substitution. Le triomphe de la justice ou la bonne substitution, malgré les apparences. Ici, on a l'impression que tout est à l'envers, tout est inversé. Pilate a laissé la foule décider et juger à sa place du sort de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a condamné Jésus et après il a demandé à la foule, mais quel mal a-t-il fait? Il était déjà condamné, Jésus, crucifie-le. Et après, mais quel mal a-t-il fait? Tout est à l'envers. Le criminel Barabbas a été libéré à la place de Jésus, le juste qui n'a jamais péché, qui lui a été condamné. Et on pourrait se demander, mais où était Dieu dans tout ça? Comme on peut encore se le demander aujourd'hui. Quand vous écoutez l'actualité, le monde ne va pas en s'arrangeant. Notre monde qui va de mal en pire, où le mensonge est roi. Le mensonge est roi avec toutes les fake news, j'en ai déjà parlé. Mais tout de même, je ne sais pas vous, mais on peut avoir l'impression que la justice, elle est parfois bafouée. Non seulement dans notre pays, mais dans le monde. Des voleurs, des violeurs, des trafiquants de drogue sont laissés ou remis en liberté, faute de place dans les prisons, ou par défaut de procédure. La vérité prend parfois des années à éclater, avant d'être révélée, au point qu'il y a parfois ce que la justice appelle prescription. Une prescription, ça veut dire que le temps maximum pour porter plainte a été dépassé, donc pas de jugement, pas de procès. Prescription. Alors on peut être désabusé. Où est la justice? La justice triomphera, frère et sœur. Parce que ici, clairement, la vérité et le jugement ont été sacrifiés et continuent encore d'être sacrifiés dans notre monde. Mais nous pouvons être sûrs que la justice triomphera parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Et ici, nous avons quand même un avant-goût de cette justice. Pourquoi ? Parce que il y a eu un échange ici. C'est la libération de Barabbas contre la condamnation de Jésus. C'est un échange qu'il y a eu. La libération de Barabbas, c'est justement les prémices de cette justice. Parce qu'il y a eu un échange de prisonniers, là. Barabbas a été relâché en échange de Jésus. Jésus a été le substitut de Barabbas. On peut se poser la question, quand Barabbas a suivi tout ça, il a été relâché. Alors certains en ont fait des films qui ne sont pas scripturaires, mais on peut supposer. Comment a été Barabbas une fois libre? Sachant qu'il a été libéré à la place du juste, lui un criminel. C'est intéressant, le nom Barabbas signifie fils d'un père. Fils d'un père. Est-ce qu'il a changé de père? Est-ce que Dieu est devenu son père suite à ce que Jésus a fait? Comment a-t-il réagi, sachant qu'un innocent a été condamné à sa place? On l'a dit tout à l'heure, ça a été rappelé ce matin, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Est-ce que Barabbas avait changé? Dieu est-il devenu son père? On ne sait rien. En tout cas, Jésus n'est pas seulement le substitut de Barabbas. Il a été le substitut de Barabbas. Et là, on peut y voir de la justice, mais plus que ça. Jésus n'est pas seulement le substitut de Barabbas parce que Jésus n'était en rien condamnable. Il n'avait jamais péché parce qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a jamais rien fait de mal. Il était sans péché. Et de par sa nature, Jésus a été le substitut non seulement de Barabbas, mais de nous tous. De nous tous. Parce que devant Dieu qui est saint, nous étions tous prisonniers du péché. Et donc nous étions tous condamnables face à un Dieu saint. Tous condamnables en raison de nos fautes. Qui a commis des péchés? La Bible dit, épître de Paul, Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas seulement Pilate, pas seulement la foule, pas seulement les chefs religieux juifs, pas seulement les Romains. Tous nous étions sous l'emprise du péché. Et Romains 6, verset 23 nous dit aussi, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que Jésus a été notre substitut, nous pouvons avoir la vie éternelle. Il a pris notre place. Il a pris notre place à la mort, lors de sa mort à la croix qui allait survenir un peu plus tard. Jésus s'est soumis parfaitement et volontairement à la volonté de son Père. Pourquoi ? Pour nous faire miséricorde. Tout en restant juste, Dieu est resté juste grâce à cette substitution. Jésus est passé par là pour nous faire grâce, pour nous faire miséricorde. Si la vérité et le jugement ont été sacrifiés dans ces procès de pacotille, la justice de Dieu ne l'a pas été. Au contraire, tout cela était dans le plan de Dieu pour le salut de quiconque croit en Jésus, aussi bien juif que non juif. Et c'est intéressant que Jésus a été reconnu comme innocent par Pilate. Quel mal a-t-il fait ? Un non-juif avait compris que Jésus était innocent. Pourquoi ? C'est intéressant. Eh bien, pour que chacun, qu'il soit juif ou pas, quelle que soit sa confession religieuse, quel que soit son arrière-plan, Jésus a été reconnu innocent par un non-juif pour que tous le reconnaissent comme innocent, non coupable. Et que nous tous nous reconnaissions coupables, condamnables, c'est nous tous qui étions condamnables. Mais Jésus le juste s'est laissé traiter comme un coupable et condamné à mort pour ne pas que nous le soyons. D'un point de vue juridique, Jésus déclare juridiquement non coupable tous ceux qui croient en lui et il leur pardonne parce qu'il a été notre substitut. Et ça s'appelle ce que la Bible appelle la justification par la foi. Nous sommes déclarés justes. Nous sommes déclarés justes quand nous plaçons notre confiance en Jésus qui a été notre substitut. Et dans notre vie chrétienne, lorsque nous devenons chrétiens, eh bien, nous devenons ce que nous avons été déclarés. Nous devenons de plus en plus à l'image de Jésus, de plus en plus justes. Mais pour cela, il fallait que Jésus passe par la croix. Ça, c'était pour un peu plus tard, juste ce qui allait suivre. On peut se poser la question, est-ce que c'était nécessaire que Jésus passe par toute cette violence ? Oui. Déjà, il accomplissait l'écriture. Lamentation, chapitre 3, versets 28 à 30, nous dit, et là, on y retrouve Jésus. Lamentation 3, 28 à 30. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. On y retrouve le prochain de Jésus, le profil de Jésus à ce moment-là. Déjà, Jésus accomplissait l'écriture. Il ne s'est pas dérobé à la violence, il l'a subi. Mais aussi, on peut y voir un intérêt pour nous. Jésus n'a pas résisté devant tant de violence pour nous rendre forts, pour rendre forts tous ceux qui croient en lui. Il a subi la violence pour nous, comme pour l'absorber. Il a subi la violence pour nous, comme pour l'absorber, pour que nous puissions la supporter si elle arrivait, parce qu'elle peut arriver. Et elle est déjà arrivée dans certains pays contre des chrétiens. Nous n'avons pas à la craindre. Jésus est passé par là, avant. Et il a absorbé, il a subi cette violence pour nous rendre capables de la supporter si elle survenait. Voilà pourquoi il nous dit dans son serment sur la montagne, une parole qui est difficile, mais il nous le dit. Matthieu 5, verset 39, Jésus qui dit, « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Ce n'est pas cette parole, plutôt de rentrer. Appareil, pourtant. Ce n'est pas du masochisme, ce n'est pas aimer souffrir, mais c'est pour que nous puissions supporter les épreuves que Jésus est passé par là. Que nous puissions supporter les épreuves lorsqu'elles arrivent, lorsqu'elles arriveront. Et surtout pour que, comme Jésus s'attendait à Dieu pour le défendre, nous nous attendions à Jésus pour nous défendre. Il est passé par là, il nous comprend, il est vivant. J'aimerais dire quelques mots sur la laïcité. Jésus a eu deux procès. Il a eu deux procès, il a eu un procès religieux et un procès civil qui a suivi. Alors, essayons de comprendre un peu Pilate. Pilate ne comprenait pas grand-chose à la loi juive. Ce n'était pas un religieux. Est-ce que vous, qui avez accepté Jésus dans votre cœur, comme votre sauveur, est-ce qu'il vous arrive parfois de vous sentir incompris par des gens qui n'ont pas la même foi que vous? Mais il ne faut pas s'étonner. Qu'est-ce qui se passe, et on l'entend de plus en plus, même si vous ne voulez pas faire de politique, malgré nous, parfois, nous sommes catégorisés. Par exemple, les chrétiens qui sont contre l'avortement ou le suicide assisté sont accusés d'être d'extrême droite. Alors peut-être vous êtes à milieu de ce que vous croyez, pourtant c'est comme ça que certains sont vus. Ils sont accusés d'être d'extrême droite par ceux qui confondent politique et religion, par ceux qui confondent politique et éthique. Et aujourd'hui, il y a un gros mélange. Et ce récit est là pour nous rappeler que pouvoir politique et religieux ne sont pas sur le même plan. Il y a un fossé entre les deux. Pourquoi ? Ben, nous avons une réponse dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première. Pourquoi ? Parce que l'homme naturel, c'est-à-dire celui qui n'est pas chrétien, il ne reçoit pas les choses de Dieu. Il ne les comprend pas, il ne le peut même pas. Celui qui n'a pas accepté Dieu, qui n'a pas accepté Jésus, il ne le peut pas. Je vais lire la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 11 à 16, qui nous éclaire beaucoup. Comment nous sommes perçus de la part des non-chrétiens et comment nous devons les percevoir aussi, sans nous mettre au-dessus d'eux. Parce que, rappelons-nous, si nous sommes sauvés, c'est que Dieu nous a fait grâce, nous avons accepté simplement sa grâce. Accepter le cadeau qu'il nous fait, nous n'avons aucun mérite. 1 Corinthiens 2, 11 à 16, je vais le lire. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ, l'apôtre Paul qui parlait. Alors, un chrétien, il a la pensée de Christ. Attention, ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut jamais se tromper. Nous ne sommes pas Christ, mais nous avons la pensée de Christ en nous, quand nous l'avons reçue, quand nous l'avons acceptée. Alors, ça veut dire que c'est à nous de chercher quelle est la pensée de Christ. Et il nous éclairera, et une fois qu'on l'a trouvée, à nous de nous y conformer. Pouvoir civil, pouvoir religieux. On a une loi dans notre pays qui, je crois, est bonne, la loi de séparation des églises et de l'État, la loi 1905. C'est une bonne chose, mais elle a ses limites. Ici, Pilate, il a vu les limites de son pouvoir civil. Il était incapable de juger les affaires religieuses. C'était pas son monde, c'était pas son domaine. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a laissé la foule décider pour lui. Alors est-ce que ça veut dire que, puisque le chrétien, on a l'Esprit de Dieu, est-ce que ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut, on se soumet quand on veut ? Non. Pour autant, la Bible nous demande de nous soumettre aux autorités civiles, même si elles sont incapables de juger les affaires religieuses. L'apôtre Paul dit dans son épître à Tite, chapitre 3, verset 1, « Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. » La soumission du chrétien aux autorités civiles nous est demandée pour que nous puissions vivre dans une société avec de l'ordre. Mais il y a des limites, dans certaines limites. Nous soumettre, oui, mais dans la limite que cela ne nous fasse pas désobéir à Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 29, nous lisons « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Si les autorités nous demandaient quelque chose qui allait clairement contre sa volonté, nous avons à prendre position pour Dieu. Et là, nous le vivons depuis quelques années maintenant. Puisque le pouvoir civil a des limites face au pouvoir religieux, qu'est-ce qui se passe ? La laïcité a tendance à devenir une religion pour certains. Un sociologue chrétien a bien défini ce qui était en train de se passer lorsque la laïcité était mise au-dessus de toutes les autres religions. La laïcité, ce n'était plus de la laïcité, c'était devenu du laïcisme. Il avait appelé ça du laïcisme. Et le laïcisme, c'est une religion. La laïcité est en train de devenir une religion qui se plaçait au-dessus des autres religions. Alors que la vraie laïcité, elle doit rester neutre et garantir l'ordre dans la société. Ça, c'est pouvoir civil. Or, dans certains cas, la laïcité a tendance à outrepasser ses limites et à devenir une religion qui a tendance à se placer au-dessus des autres religions. Alors, que faire ? Eh bien, la Bible nous exhorte à prier pour nos autorités. C'est notre rôle de prier pour nos autorités parce qu'elles ne connaissent pas. Certains peut-être connaissent Dieu, mais pas tous. C'est notre rôle, notre responsabilité de prier pour eux. Pour terminer, je vais lire 1 Timothée 2, verset 1, exhortation donc de la parole de Dieu qui nous exhorte à prier pour les autorités. « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour le président, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Amen. Alors ne désespérons pas. Si on a l'impression que la vérité et le jugement sont parfois sacrifiés, la justice de Dieu, elle demeure à jamais et elle triomphera à plus ou moins long terme parce que Dieu est juste. Et sa justice, elle a été parfaitement accomplie en Jésus-Christ par sa mort à la Pâque, puis par sa résurrection. C'est ce qui allait suivre. Je vais prier. Oui, Seigneur, c'est vrai que lorsque nous regardons notre monde, il y a de quoi désespérer, Seigneur. Mais tu nous dis heureux, vous qui avez faim de justice, car vous serez rassasiés. Seigneur, nous te remercions parce que tu es juste. Personne ne peut te changer, Seigneur. Tu es juste, tu es bon. Tu es amour, Seigneur, tu es juste et le mal doit être puni parce que tu es juste. Et merci parce que Jésus a pris notre punition à la croix. Seigneur, merci car personne ne pourra te corrompre et nous pouvons te faire confiance, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance jusqu'au bout, Seigneur. Quelle que soit la tournure que prennent les événements dans notre monde, nous n'avons pas à craindre, Seigneur, parce que toi, tu sais exactement ce qui arrivera, Seigneur. Et tu nous promets que tu vas revenir, Seigneur. Alors donne-nous de t'attendre. Je ne sais pas quand, mais donne-nous de t'attendre, Seigneur, d'être prêt. Seigneur, nous te demandons pour nos autorités. On voit bien, Seigneur, que parfois elles sont dépassées, Seigneur. Elles ne savent pas quoi faire devant telle ou telle situation et elles ont tendance parfois à prendre ce qui revient, la place qui est plutôt celle qui revient à la religion. Enfin, Seigneur, je te prie de faire que ce pouvoir en place soit juste, que Seigneur, nous te prions pour plus de justice dans notre pays et dans le monde, et même si le mal va en augmentant, ce que tu nous préviens, que nous ne désespérions pas et que nous nous attendions à toi jour après jour, Seigneur. Donne-nous de t'être fidèle, donne-nous de te refléter, Seigneur, et de savoir répondre à tous ceux qui se demandent pourquoi, Seigneur, pourquoi on ne veut pas s'engager dans ce déferlement de mensonges, et Seigneur, que vraiment on te reste fidèle à toi qui es la vérité, et que elle doit être juste, parce que toi tu es juste. Aide les parents, Seigneur, tu sais que la tâche d'éduquer les enfants n'est pas facile aujourd'hui, aide-les à être juste, à être aimant, Seigneur, pour toujours mieux te refléter. Au nom de Jésus, Amen.